7h-9h, Matin Première.
Et à 7h48, on va tenter de répondre à pas mal de questions ce matin. Peut-on envisager d'éradiquer l'État islamique? Dans quelle région l'hydre repousse-t-elle? On va en parler ce matin, Thomas Guédisseux, avec l'un des experts de Daesh.
Oui, Sébastien Boussois, chercheur en sciences politiques au Centre d'études pour la coopération internationale et le développement de l'ULB. Et à Save Belgium, une association qui combat l'extrémisme et la violence sur la question de la déradicalisation. Sébastien Boussois vient de publier un livre, Daesh, la suite. Ça tombe bien, on a parlé justement hier d'une attaque, François, une cyberattaque contre l'État islamique.
Bonjour Sébastien Boussois.
Bonjour.
Hier, Interpol, on l'a dit, a annoncé avoir neutralisé l'outil de propagande du groupe terroriste Daesh sur le net, la plateforme Hamak. En quoi est-ce que c'est réellement un coup dur pour l'État islamique?
Je dirais que c'est un coup dur provisoire. Parce que la campagne de communication mise en place par l'État islamique est quelque chose de tout à fait inédit. On avait la plus grande entreprise terroriste du monde, telle qu'on nous l'a expliqué, et on a eu aussi les plus gros outils de propagande, tels que ceux qui ont été mis en place par l'Arabie Saoudite, par exemple, depuis les années 70, ou alors par l'URSS à l'époque. Aujourd'hui, on a eu affaire à des canaux de diffusion extrêmement puissants et extrêmement importants, qui sont véritablement de l'ordre de l'inédit, parce que le monde a changé par rapport aux situations dont je vous ai parlé précédemment, et parce qu'aujourd'hui, une guerre, elle ne se fait pas uniquement sur le terrain sanctuarisé tel que Daesh a existé, elle se fait à la fois dans les esprits, elle se fait à la fois sur Internet, et elle se fait évidemment à travers ses supports. Donc quand il est annoncé que Hamak est, à mon avis, provisoirement déconnecté, ou en tout cas affaibli, c'est pas très compliqué de ressortir et de redévelopper des systèmes de diffusion de ce type de propagande, parce que Daesh ne s'est pas entouré, je dirais, que d'individus relativement moyennement diplômés ou autres. Ils ont eu aussi des cadres en nouvelles technologies de l'information, en cybernétique, et aussi, évidemment, c'est important.
Si les Européens s'attaquent à cette plateforme, c'est parce qu'elle a encore une influence tout de même chez nous, même si à un moment donné, elle renaît via une autre plateforme numérique. Les activités de propagande, ça peut réactiver des cellules, éventuellement radicaliser des jeunes chez nous?
Alors, ce n'est pas en tant que tel l'outil de propagande qui va réactiver les cellules. En réalité, ce sont les individus qui décideront d'activer. Ces cellules dormantes, elles se multiplient, ça c'est évident, que ça soit en Syrie, en Irak, ou que ça soit en Europe, par exemple en Bosnie, ou maintenant on le découvre en Ukraine. Mais il est clair que ces supports-là sont très insaisissables. Les États sont souvent très impuissants par rapport au développement de ce type de nouvelles technologies extrêmement complexes. Et on le voit bien, c'est les réseaux sociaux, c'est Telegram, c'est Instagram, c'est Facebook, c'est Google, et même en partenariat avec ce qu'on appelle les GAFA, en tout cas ceux-là, c'est extrêmement compliqué de venir à bout de ces profils.
Et cette fois, ces différents pays, notamment via la coupole Interpol, les policiers, qui lancent une attaque offensive, quasiment militaire, entre guillemets, une cyberattaque. En quoi ça, c'est un élément aussi, une étape suivante stratégique?
Alors, c'était dans le cadre de ce qu'ils appellent l'Action Day, je dirais, est-ce vraiment offensif après avoir attendu tant d'années? Ça, c'est une véritable question. Je pense que depuis 2015, on aurait eu la possibilité de venir à bout ou d'affaiblir ces supports et ces canaux-là.
On parle de 26 000 éléments qui ont été supprimés, des vidéos, des publications, des groupes, des comptes, c'est réellement énorme, entre guillemets, ou en fait c'est juste une petite goutte d'eau dans tous ces canaux de diffusion?
Je pense que c'est une goutte d'eau en réalité, que ce soit des documents, que ce soit des profils, vous en supprimez un, vous en recréez 10 en réalité. Et c'est ça toute la difficulté d'arriver à saisir et d'arriver à appréhender. Le problème, c'est qu'on ne peut que guérir. Prévenir est extrêmement complexe.
Alors dans vos recherches, vous avez des contacts avec des jeunes radicalisés qui sont en train de se désengager, mais ces comptes, Telegram, ces différents réseaux sociaux fonctionnent encore? Dans la communauté, ils échangent encore ces différentes vidéos héroïques, qualifiées en tout cas pour eux d'héroïques.
Oui, j'en connais quelques-uns, dont un qui continue à suivre à travers un groupe Telegram les activités, les actualités. On ne parle pas d'extrémisme violent ou de terrorisme total d'individus qui vont expliquer sur ce groupe qu'ils vont tuer demain je ne sais combien de personnes à tel endroit. On est dans cette radicalisation discrète et silencieuse. Il faut bien prendre compte et avoir conscience que sur le nombre de profils de signalés en France, on a 10% qui sont prêts à basculer dans l'extrémisme violent. La radicalisation, elle est silencieuse, elle est discrète, et un individu qui complote, un individu qui est légèrement antisémite, un individu qui joue là-dessus, est déjà radicalisé. Il n'y a pas besoin d'être dans cet extrémisme violent. Donc ces jeunes s'entretiennent dans cette situation.
La question centrale, Sébastien Boussois, c'est est-ce que Daesh est sur le point d'être éradiqué? Événement marquant, évidemment, on le rappelle, le 25 octobre dernier, le leader de Daesh, Abou Bakr el-Baghdadi, qui était tué lors d'une opération de l'armée américaine dans le nord-est de la Syrie. Écoutez.
8 hélicoptères avec à bord des forces spéciales.
Les images vidéo ont été tournées par des caméras embarquées à bord des avions militaires.
L'armée américaine aurait visé le chef autoproclamé de l'organisation terroriste.
Effectivement, l'organisation terroriste avait déjà perdu un califat autoproclamé. Elle perd désormais un leader.
D'autres images très impressionnantes montrent des bombes américaines pulvériser littéralement le complexe. Un champignon de fumée noire s'élève dans le ciel.
Sébastien Boussois, c'est la fin de Daesh aujourd'hui ou l'hydre repousse ou va repousser partout ailleurs ?
Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure. Le titre du livre s'appelle « Daesh, la suite ». Au départ, j'avais proposé à l'éditeur « Daesh est mort, vive Daesh », mais on a trouvé ça un peu limite. La réalité, c'est que quand on regarde les 40 ans de l'histoire du djihadisme depuis l'Afghanistan jusqu'à aujourd'hui, on a toujours, ils ont toujours été dans la stratégie du pire. Donc je ne vois pas pourquoi, du jour au lendemain, malheureusement, ça diminuerait. Il est clair que d'Al-Qaïda jusqu'à Daesh, on a été dans une croissance de la violence, dans une croissance d'attaques sanguinaires, dans quelque chose qu'on n'imaginait même pas, la prise de position d'un territoire, de possession d'un territoire sur deux États déjà existants pour essayer de retrouver ce califat entre Bagdad et Damas, entre le califat Omeyyade et Abbaside.
Mais donc, où repousse justement ce que vous appelez les franchises locales de Daesh ?
Ben maintenant qu'on ne peut plus saisir ce territoire qui était finalement relativement facile à cerner à l'époque de Daesh, jusqu'à la chute de Raqqa et de Barkhouz, aujourd'hui on a une une implosion, une forme de Big Bang, à la fois des combattants qui étaient sur ce terrain-là. Le rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies du 15 juillet explique et évalue le nombre d'individus insaisissables, encore vivants, prêts à continuer le combat, à peu près 20 000 individus.
Qu'est-ce que ça veut dire le Big Bang terroriste ? Sinon,
c'est-à-dire c'est-à-dire l'attraction. L'État islamique est une organisation qui a attiré sur 80 000 combattants, 40 000 combattants venant du monde entier, d'une centaine de pays. C'est du jamais vu. Maintenant que l'État est explosé, entre guillemets, ces cellules, ces individus se répartissent, se dispatchent sur plein d'autres terrains existants.
Est-ce qu'on a une idée ? Quels sont ces terrains justement sur lesquels
quarantaine de pays. Une quarantaine de pays aujourd'hui ont des franchises de Daesh. Ça va sur le Sahel, par exemple. C'est pas uniquement Boko Haram. Des pays comme le Mali, comme le Niger, comme la Mauritanie sont dans des situations extrêmement précaires et instables. Ça va sur l'Asie, notamment les Philippines et l'Indonésie, qui sont à mon avis la terre d'avenir de Daesh. Ça va dans des pays proches de l'Europe, comme la Bosnie-Herzégovine, par exemple, ou comme l'Ukraine dont on a parlé, qui devient aujourd'hui un repère de djihadistes, juste parce qu'ils savent très bien faire du trafic de faux papiers.
C'est ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous pointez que l'Europe a le regard tourné vers sa frontière au sud, vers la Libye notamment, mais qu'en fait, c'est ça, dans les Balkans, il y a d'autres poches potentielles de radicalisme, notamment la Bosnie, avec forcément la guerre encore, Srebrenica, tous ces symboles qui peuvent être agités par certains radicalisés. Qu'est-ce qui vous pousse à dire ça ? Est-ce qu'il y a vraiment déjà des actions, des éléments préoccupants en Bosnie ?
Je pense que la situation même de l'Union européenne pousse indirectement à ça. Que l'on voit un certain nombre de pays qui sont intégrés à l'Union européenne aujourd'hui, que ce soit la Croatie ou que l'on intègre la Serbie, avec toute l'histoire que l'on connaît, on a une véritable interrogation sur le fait de savoir pourquoi est-ce qu'on n'intégrerait pas la Bosnie-Herzégovine. On le sait, 51% de la population est musulmane, ça pose un véritable problème éthique et idéologique pour l'Europe, et je pense que du coup ça, cette exclusion de la Bosnie au sein même des frontières terrestres de l'Union européenne est tout à fait à même de
repousser. C'est un enjeu qui est repoussé pour l'instant, hein, parce que les négociations...
Oui, comme la Turquie, mais en fait, en réalité, on sait que non.
Et vous évoquez dans votre livre aussi une phrase, certains politiques ou experts persistent à nous expliquer que nous avons passé le plus gros du danger depuis la chute de l'organisation État islamique et que les retours de combattants n'ont pas été si nombreux ni si catastrophiques pour la sécurité du vieux continent. En gros, on sous-estime la menace pour l'instant en Europe ?
Je pense que les politiques ont un intérêt à la fois à sous-estimer, en tout cas à rassurer les opinions. C'est ça l'essentiel. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'argent qui investit sur le sécuritaire au détriment de la prévention.
Après la vague d'attentats, il y a une période de relâchement, c'est ça que vous expliquez ?
Je ne parle pas forcément des services. Je crois qu'il faut à la fois saluer le travail des services. Après, d'un autre côté, en France, on nous annonce à chaque fois qu'un certain nombre d'attentats ont été déjoués. On n'a pas de preuve en réalité de le savoir, mais j'ai plutôt tendance, évidemment, à faire confiance aux services des grands États. Et la coopération franco-belge, par exemple, a été extrêmement importante de 2015 jusqu'à aujourd'hui. Mais le problème fondamental, il est l'individu, le jeune qui est dans sa chambre aujourd'hui, qui est dans une situation bancale ou pas d'ailleurs en réalité dans son projet de vie. Qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui d'éviter qu'il bascule dans une forme de radicalisme ? Que ça soit du côté du djihadisme, ou que ça soit du côté de l'extrême droite, ou pourquoi pas Black Blocs du côté de l'extrême gauche. Ça, c'est extrêmement difficile à appréhender, et évidemment, l'État ne peut pas être dans la chambre du jeune.
Et est-ce qu'on commence, en Europe, à avoir une politique, justement, de déradicalisation, de démobilisation vis-à-vis de ces jeunes ? On a été à tâtons, on a eu des petites vidéos YouTube pour nous expliquer que c'était du contre-terrorisme, on a vu que ça ne marchait pas. En France aussi, il y a eu des changements de cap, en Belgique, pareil. Est-ce qu'à un moment donné, on a le recul nécessaire pour avoir une vraie politique en la matière ?
Alors, on travaille avec certains individus anciens djihadistes qui datent du temps des Balkans, ça veut dire 20 ans de recul. Okay. Je travaille avec des jeunes d'extrême droite côté du Canada qui ont créé des groupes néo-nazis dans les années 90. Ça veut dire plus de 25 ans de recul. Je ne crois pas aujourd'hui qu'on ait suffisamment de recul pour ceux qui étaient embarqués dans le cadre de Daesh. Et quand ils nous expliquent lors de leur procès et tout qu'ils sont désengagés, mesurer ça est extrêmement compliqué. Je ne suis pas convaincu de ce qu'on appelle la déradicalisation ou le désengagement. Au cas par cas, évidemment, ça vaut le coup de l'essayer. Pour les plus dangereux, c'est évidemment un suivi très, très particulier. Mais j'insiste sur le fait que la politique de prévention primaire doit être fondamentale, empêcher que des jeunes basculent à ce moment-là, au moins sauver ceux qui auraient pu partir à un moment ou ceux qui peuvent demain décider de s'engager.
Ça explique d'autant plus la sensibilité du sujet des retours des djihadistes. Chez nous, en Belgique, ceux qui sont emprisonnés pour l'instant en Syrie ou en Irak, comment on va faire pour les suivre quand ils reviendront ici ?
Mais ils ne reviendront pas. Enfin, l'État belge est très clair, comme l'État français. Aujourd'hui, on est dans une situation totalement ubuesque. Il y a d'un côté les djihadistes, il y a de l'autre côté les mineurs. Le travail que fait Bernard De Vos, par exemple, sur la question des mineurs, elle est fondamentale. Il faut faire revenir les enfants. C'est la priorité avec leur mère et du suivi très spécifique pour les mamans. Concernant les djihadistes, on ne veut pas, les États ne veulent pas le retour de
Sébastien Boussois, vous êtes chercheur à l'ULB. Votre livre s'intitule « Daesh ». La suite, on a donc bien compris qu'il y en avait une. De suite, c'est paru aux éditions de l'Aube. Merci d'avoir été l'invité de la matinale.
Le 7-9 de Matin Première.